Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Mester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Camille Groc, réalisée par Eliane Girard et Hélène Bizio et mise en musique par Muriel Pérez. J'ai du mal pour commencer ce matin aujourd'hui à la technique, c'est Serge Viguier. La gourmandise de ce matin, ce sont les chiens figurés par le peintre et graveur animalier anglais du XVIIIe siècle, George Stubbs. Truffes alertes et corps érigés vers les cieux, les mammifères bienheureux posent avec grâce dans des paysages bucoliques. L'un hume coquettement la terre, tandis qu'un autre arbore fièrement le pompon panaché qui lui sert de queue. On dirait des philosophes, ou les gardiens d'un secret auquel nous n'aurons jamais accès. Leur sourire, car ils sourient à aller voir les tableaux sur internet, semble dire « Je connais, chers spectateurs, l'immondice de l'existence humaine, mais si vous imprégnez suffisamment longtemps votre rétine de mon dandinement folâtre, votre âme sera temporairement à l'abri de toute noirceur. » Auteur, illustrateur, jeunesse et écrivain, notre apothicaire de l'âme est un confectionneur de joie et d'émerveillement. Il sait que dehors ce n'est pas très beau, alors il puise dans son intérieur des quantités épatantes de fantaisie, d'imagination et de poésie. Après les Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, il entame des études de lettres et d'archéologie à Strasbourg. À Paris, il dessine, peint et apprend la gravure et rejoint l'Express, où il est d'abord coursier, puis dessinateur de presse. Dans les années 80, il est directeur artistique de l'imagerie d'Épinal. C'est la naissance de sa fille en 85 qui déclenche sa vocation. Le livre qu'il ne crée que pour elle, enthousiasme Geneviève Brisac qui le publie et signe le début d'une longue série de livres refuges dans lesquels les lecteurs de tous âges se rigolent marre du verbe inventé par notre apothicaire, rigole marré. Il s'inspire des rêves de sa fille ou de Lewis Carroll, invente un univers fantastique à la richesse graphique et au symbolisme époustouflant et communique sa jubilation autant par le verbe que par le dessin. Ses personnages ont des noms savoureux à prononcer, Tromboline, Full Bazar, Petroni, Pucci, Blue, Palum, Pim ou encore les Zéphirotes. Ces petite bestiole qui marche sur le chemin caché de l'équateur pour faire tourner la Terre. Chose rare, on se réjouit dès le titre chez lui. Le chien invisible, le doudou méchant ou encore le catalogue des parents pour les enfants qui veulent en changer. Notre homme a aussi publié du théâtre pour les jeunes spectateurs et des romans pour les enfants seniors. Il l'avoue humblement, je le cite, ça m'a demandé beaucoup de boulot d'être moi. Bonjour Claude Ponty.
Bonjour.
Claude Ponty, dans toutes les interviews, vous parlez de la naissance de votre fille. Et il y a une interview où vous dites que quand elle est née, Adèle, vous êtes passé du pessimisme établi quasiment bourgeois, bien au chaud là-dedans, à un optimisme décisionnel inébranlable. J'ai juste été le même bonhomme avec la bouche dans l'autre sens pour toujours, c'est graphique.
Ben oui.
Alors, première question, quel est votre rapport à la mélancolie, Claude Ponty ?
Alors, mon idée de la mélancolie, c'est elle part plutôt de la gravure de Dürer qui montre une femme un peu grecque, un peu statue, qui est en train de méditer, de réfléchir, avec un regard de pensée profonde, et autour d'elle tout un tas d'objets qui sont des objets d'études, de mathématiques, de géométrie, etc. autour d'elle. Et c'est mon idée de fond de la mélancolie, c'est-à-dire que on a parfaitement conscience que le monde est quand même un petit peu difficile, un petit peu culotté quand même, parce que on démarre, on sait pas trop de choses, on met très longtemps à acquérir, à apprendre, à comprendre des choses, et quand on a à peu près tout en main, on a compris qu'il va falloir tout lâcher. Donc voilà, la mélancolie pour moi elle tourne autour de ça, ce qui veut dire que il faut pas avoir peur de l'éprouver, il faut être dedans. Par contre, il faut pas s'y complaire, il vaut mieux pas. Mais tout ce qui peut amener à fréquenter les profondeurs de nos propres émotions, de notre compréhension de nous-mêmes et de la vie, c'est oui, je trouve ça intéressant. Donc quand je suis un peu mélancolique, je m'y vautre pas, mais je m'y plonge. Oui.
Donc Claude Ponty, vous l'acceptez d'abord, vous ne la fuyez pas?
Non.
Et ça passe vite en général?
Il paraît que les gens qui sont un peu créatifs comme moi, ils, de toute façon, ils passent sans arrêt de la déprime à la mélancolie, de la mélancolie à exaltation, du plaisir fou à la déprime. Donc, je fais des bruits dans le micro, mais en fait, je me casse pas trop la tête avec ça. Ça arrive, bah, tout d'un coup, je me dis, ah, bah, tiens, là, je suis quand même plutôt un peu mélancolique qu'autre chose, alors, des fois, je lis, j'écoute un disque où je me mets où je pense à des choses.
Amusante, fantaisiste. J'ai lu une interview avec Claude Ponty où on vous demandait un geste de la vie quotidienne dont vous étiez incapable et vous avez répondu « Accepter le quotidien, je le nie ».
J'ai dit ça, moi.
Oui, en 2006.
Ouais, ouais, aujourd'hui, je me dirais le contraire.
Ah oui ?
Ah oui.
Alors, donc, il y a un progrès ?
Oui, donc, bah non, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus capable de me dire, je suis là. Je suis ici, voilà, c'est comme ça autour de moi, et tout est bien.
Une sorte d'approbation du réel.
Non, c'est, j'ai un défaut, je réponds toujours non aux questions.
D'accord, alors, allez-y, voilà, je ne me formaliserai pas.
Voilà, faut pas vous formaliser. Bah, ce matin, j'ai pris le train pour venir vous voir et j'avais un changement à une gare importante pour passer d'un TER à un TGV. J'avais 40 minutes d'attente. Et là, je fais depuis un certain temps ce que je me suis appris à faire, c'est-à-dire qu'au lieu de me dire « bon, c'est 40 minutes, il faut qu'elle passe le plus vite possible parce que tout ce que je veux, c'est être à Paris à faire une émission avec Eva Bester », mais bon... Et non, maintenant je me dis, bon, j'ai 40 minutes, j'en profite à fond. J'essaye d'être le plus là possible. Mais c'est aussi une question d'âge, hein, là, c'est que...
Et de sagesse ?
Non, moi je suis pas sage.
Vantez Claude Ponty, soupçonne d'être sage, un petit peu.
Non, vous avez fait mon panégyrique, là, au début, c'était gentil, j'ai failli partir, parce que je me dis, il n'y a plus rien à dire.
Bah, vous vous êtes dit, elle parle de quelqu'un d'autre.
Ou elle parle, oui, de qui c'est, de qui elle parle.
Elle s'est trompée.
Voilà. Ouais. Donc,
D'accord, non. Non, alors j'annonce le sommaire aux auditeurs, Claude Ponty, vous allez convoquer dans quelques instants Blind Willie Johnson, Thomas Vinterberg, Janis Joplin, Rachid Taha, des pendus, Jean-Louis Trintignant, de l'aquarelle, de la musique traditionnelle chinoise, un proverbe, la gloire du 17e, juste après le morceau Low High du groupe The Black Keys. We'll be right back. Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Claude Ponty.
Navré de vous déranger encore, mais je m'aperçois que j'ai oublié l'essentiel. Nous sommes là, ce soir, pour célébrer l'anniversaire d'Helg, et pour aucune autre raison. Si je vous ai mis sur une fausse piste tout à l'heure, je voudrais remédier à cela en vous proposant un toast en l'honneur de mon père. S'il vous plaît, veuillez vous lever. Bien. Levez vos verres. Je bois à l'homme qui a tué ma sœur. Je bois au meurtrier.
1998, Festen du réalisateur danois Thomas Vinterberg, non crédité au générique comme l'impose le manifeste du mouvement Dogme 95 auquel il appartenait. Festen, Claude Ponty, ça veut dire la fête en danois. Vous avez choisi ce film en inscrivant juste ding ding, la fourchette entre les verres.
Oui, contre le verre, là. Quand il demande le silence et qu'il va parler. Non, mais chaque fois, ça me tue. Là. J'adore ce moment-là. En plus, je pense qu'il y a des gens, ça me ferait tellement plaisir de les attacher sur une chaise et de leur projeter ce film.
Festen.
Oui, 30 fois de suite.
30 fois de suite. Ouais. Alors là, vous vous tripotez nerveusement du sopalin qu'on a posé devant vous.
Oui, parce que j'ai renversé un peu d'eau.
Pourquoi l'avoir choisi comme remède à la mélancolie? Parce que je le rappelle pour les auditeurs, Festen, c'est quand même l'histoire d'un fils qui va dire devant tout le monde à l'anniversaire de son père qu'il a été abusé sexuellement par son père, avec sa sœur qui s'est suicidée aussi. Et ce qui est fou dans ce film, déjà ce qui est le tour de force de Vinterberg, c'est que c'est drôle et tragique en même temps. Et ce qui est fou dans ce film, c'est que personne ne veut entendre ce fils. On l'empêche de parler.
Oui, enfin c'est drôle, c'est habituel. C'est ce que ce film est formidable par la puissance qu'il a de déclencher la tempête comme ça, de démolir complètement la mythologie familiale, le respect envers les uns ou les autres juste parce que ils sont soit procréateurs du procréateur, etc. C'est cette petite musique là, comme presque comme une clochette là, quand il tape sur son verre, c'est formidable. Je pense que ce film a probablement bouleversé énormément de gens, mais surtout apporté cette espèce de bonheur étrange de se dire que waouh, il l'a dit. Ouais, c'était parce que c'est tellement dur parfois de le dire. Après, des fois, on arrive à le dire, mais c'est encore pire de l'avoir dit parce qu'on se fait foutre dehors, ou on se fait rejeter, ou on a trahi tout ce qu'il y avait à trahir. Mais quel est le plus grand remède à la mélancolie que de trahir
pour établir la vérité?
Bah oui, oui.
Mais dans Festen, ce qui est très puissant, Claude Ponty, c'est que justement ce fils qu'on empêche de parler pendant presque tout le film, on l'attache même à un arbre à un moment, tout le monde, même ceux qui sont au courant de la vérité, nient ce qu'il dit, et à un moment ils se retrouvent dans un face-à-face, ils sont que deux, lui et son père, et on connaît ça, cette peur des parents qui sont justement intouchables, et son père le fixe et lui dit, tu sais ce que tu dis est très grave, ça n'a pas existé. Et le fils s'excuse et dit à son père en baissant les yeux, c'est vrai, tu as raison, pardon, ça n'a pas existé, ce que je dis est faux.
Oui, c'est terrible parce que, je peux faire un parallèle avec moi, par exemple.
Oui. Donc, vous en parlez dans un roman.
Oui, depuis
Les Pieds Bleus.
Et puis ailleurs, c'est-à-dire que bon, j'ai été violé par mon grand-père, qui était une espèce d'idole de la guerre de 14, médaillé, qui avait tout fait bien tout le temps, qui était exemplaire quand je révèle, je sais plus tout ce que je voulais vous dire.
On n'a pas le droit de toucher aux gens qui sont admirés.
Ce qui est quand même terrible, c'est cette position que beaucoup de femmes doivent connaître, qui est d'être la victime coupable. C'est-à-dire que moi je révèle les choses et ma mère souffre tellement d'apprendre que son père est une ordure. Que elle va entrer dans le déni, dans le refus, dans le truc. Et moi, je vais être assez con pour avoir pitié, quoi, pour être. Alors là, maintenant, non, c'est fini. Depuis un bout de temps, c'est fini, pas de pitié.
Mais ça a pris beaucoup de temps.
Oui, bien sûr, ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. D'abord, pour que je sache ce qui m'était arrivé, en gros, ça commence à m'arriver vers 6-7 ans, après ça continue quand je suis en 6e. C'est-à-dire, il faut que j'ai 21 ans pour que ça me revienne, c'est-à-dire que je l'avais complètement oublié. Absolument. C'était tellement dingue que quand en 6e, j'habitais chez mon grand-père. Donc, chaque soir, quand je montais me coucher, il fallait que... Je me demande, est-ce qu'il va rentrer dans ma chambre ou est-ce qu'il va pas rentrer dans ma chambre? Mais tout le reste de la journée, mon grand-père était mon grand-père. C'était pas du tout le monstre. Donc on est capable de quantité de cloisonnement, de séparation des choses pour survivre. Et là où on pourrait en revenir à ma mère et à d'autres, ça devient terrible parce que y a un moment, on comprend très bien que leur déni, c'est leur seule façon de survivre. Donc on est encore plus coupable si on les démolit un peu plus. Donc,
Je pense à Kafka qui a écrit sa lettre au père en expliquant à son père pourquoi il l'avait démoli et qui n'a jamais eu le courage de lui envoyer. Il y a quelque chose qui me frappe, Claude Ponty, là en abordant ce sujet très délicat, c'est que dans tous vos livres, dans tous vos albums pour enfants, les maisons, qui sont des abris, qui sont des refuges, sont souvent des monstres. Et en fait, le danger est souvent quand, au moment où on dort, c'est toujours des personnages qui sont au lit ou qui s'apprêtent à dormir. Et puis, il y a des monstres qui arrivent, il y a les maisons elles-mêmes qui s'animent. D'ailleurs, les maisonstres, vous faites ce mot valise. Oui.
Ah bon?
Maisonstres.
Heureusement qu'il y a des gens pour lire mes livres.
Oui. Est-ce que vous pensez que, enfin, j'imagine, oui, que ça vous a forcément influencé aussi?
Oui, mais bien sûr. Ne serait-ce que parce que ça m'est arrivé quand je dormais. Donc, en plus, c'est qui rend les choses encore plus incompréhensibles. Mais ça fait partie aussi de cette idée qui est très importante à faire comprendre. C'est que des choses ne sont jamais ce qu'elles ont l'air d'être. Rien. Une maison, ça peut... Là j'ai croisé récemment une famille. Ça me tue. Ils s'aiment tous.
Non, mais c'est pas possible.
Ils se fâchent pas, ils sont gentils, ils se font des câlins. Le père a, je sais pas, une cinquantaine d'années, il prend son fils de 30 ans dans les bras, il lui fait des bisous. C'est totalement incompréhensible.
Ce sont des robots.
Non, ce sont des gens qui s'aiment. Alors, j'ai encore perdu de quoi on parlait, mais ça arrive, ça existe. J'ai vraiment perdu la question de départ.
On l'a tous perdu. Alors, je vous propose qu'on parle d'un chanteur qui a une histoire tragique aussi dans son enfance, puisque la seconde épouse de son père lui a jeté un jour du vitriol au visage. Ouais. Il est devenu aveugle. Plus tard, il est mort d'une pneumonie dans sa maison incendiée et l'hôpital a refusé de l'accepter car il était noir, ouais, aveugle et indigent. Oui, voilà, Claude Ponty, c'est l'un de vos remèdes musicaux. Un titre de 1929, on écoute un extrait.1929, l'une des chansons qui vous empêche d'être triste, Claude Ponty.
Ah oui.
Take Your Burden to the Lord and Leave It, du guitariste et chanteur de gospel américain Blind Willie Johnson, accompagné de sa femme Willie B. Harris. Abandonne ton fardeau à Dieu.
Oui, alors, vous en savez beaucoup plus que moi, parce que je vais rarement chercher qui sont, comment, pourquoi, etc. D'abord, c'est incroyable, ça, ce que vous dites sur sa vie. Ensuite, sans comprendre les paroles, ce morceau m'a toujours mis en joie. Il y a quelque chose dedans, de transcender la misère, la tristesse, le désespoir, l'impossibilité, de traverser tout ça... lui, ça marche avec Dieu. Et alors après, un jour, j'ai lu les paroles, donc ça me met encore plus en joie. Il dit, pose ton fardeau près de Dieu, il va s'en occuper. Putain, non mais je me dis, mais Dieu, la quantité de fardeau qu'il peut avoir, bon, c'est pas grave, il est infini.
Évidemment.
Mais quand même, ça me fait mourir de rire. La quantité, le tas de fardeaux depuis 250 000 ou 300 000 ans, qu'il y a quelque chose qui est à peu près humain sur cette planète, Je sais pas, il a des épaules incroyables.
Il doit avoir un grand appartement.
Oui, il doit avoir une très grande maison. Mais...
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down.
1970, Mercedes-Benz, la dernière chanson enregistrée par Janis Joplin 3 jours avant sa mort. C'est le contraire du morceau d'avant, Claude Ponty. Là, c'est des désirs matériels qu'on demande à Dieu de combler.
Ah, c'est drôle, mais je trouve que... Alors déjà, c'est comme toujours, je savais pas que c'était la dernière, ni que c'était avant, pas longtemps avec sa mort, avant sa mort et avec sa mort. Je sais pas si on peut dire... Enfin, si moi, je dirais que c'est le contraire. Je trouve que d'abord, dans la voix, une espèce de jusqu'au boutisme, de le dire quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, cette volonté, espèce de rage de vivre, d'être elle-même, et ça, c'est formidable, sans comprendre les paroles. Après, parce que encore une fois, c'est des paroles comprises longtemps après, parce que je me laisse toujours plus pénétrer par la... disons l'intériorité, enfin la chose qu'il y a dans la chanson que par les paroles. Après, j'ai jamais pu savoir si c'était au deuxième, enfin j'ai jamais réussi à me faire une opinion sur le fait que c'était au deuxième degré ou pas. Et bon, en plus c'est les années 70, demander une télé couleur, bon c'est les États-Unis. Le Mercedes-Benz, il y a rien à faire, c'est mortel comme truc. Et pour moi, cette chanteuse est tellement en dehors des clous, en dehors des normes du formatage, comment dire aujourd'hui. Elle a tellement l'absolue volonté d'être elle-même que c'est pas possible qu'elle demande une Mercedes.
Peut-être. Votre troisième choix, Claude Ponty, c'est la reprise du morceau de Trenet Douce France par Rachita et son groupe Carte de Séjour en 1986. On va l'écouter, mais juste avant, brièvement, pourquoi ce choix ?
Alors, à l'époque où j'ai entendu ça, les choses étaient un peu moins tendues et moins complexes qu'aujourd'hui. Donc, je trouvais ça absolument admirable de chanter. Bon, je vais le dire en mots grossiers, quoi, de chanter en arabe ou côté arabe cette chanson typiquement purement française avec le petit clocher et tout ça. Ensuite, probablement que il y a mon côté fils d'immigré italien qui est venu en France à l'âge de 2 ans et qui avait rien. Absolument rien. C'est-à-dire qu'à un moment, probablement, parce que c'est difficile à savoir dans les choses pas dites de la famille, mais probablement à un moment a été nourri et habillé par la mairie du là-haut où ils étaient, dans les mines de fer. Là. Donc ce côté... Mon père, à un moment, comme beaucoup d'immigrés, il a tellement bavé pour être français qu'il trouvait que régulariser les sans-papiers, c'était pas bien, parce que ça, c'était pas assez difficile pour eux. Voilà. Donc il y a tout ça. Et puis dans la chanson chantée par Rachita, il y a un tel bonheur d'être et d'être là, parce que c'est même pas d'être français. Je suis là, je suis né là, ça va, tout est voilà. Que oui, ça me plonge chaque fois que je l'entends, ça me plonge dans le ravissement.
Douce France par Rachita et son groupe Carte de Séjour.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Claude Ponty, qui nous a donné du fil à retordre avec ses réponses à notre questionnaire anti-spleen. Mais avant d'enchaîner, vous me faites un signe, Claude Ponty, vous voulez réagir?
Oui, je voudrais ajouter un petit truc, c'est que cette chanson-là, chantée comme ça, il y a quand même une espèce de... Il y a une ironie heureuse et narquoise, qui est que, pour tous les deux souches, là, Non, c'est trop tard. C'est arrivé. C'est passé.
Il y a des gens qui doivent vous détester de dire ça, Claude Ponty.
On verra bien. Mais je vais faire le lien aussi avec la chanson de Big Flo
et Oli.
Oui, Rentre chez toi. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, de Douce France à Rentre chez toi, il y a un monde qui est pas celui des dessous. Voilà, qui est le vrai monde. Et puis on peut pas aimer manger un couscous tous les trois mois ou tous les deux mois et puis trouver que les gens qui ont inventé le couscous sont des couillons, c'est pas possible.
Non, surtout que le couscous c'est merveilleux et un remède à la mélancolie. Claude Ponty, j'ai dit aux auditeurs que vous nous aviez donné du fil à retordre avec vos réponses. On vous a demandé un livre consolatoire et vous avez répondu La balade des pendus dans les fleurs du mal de Rimbaud. Et ensuite vous avez précisé je ne veux pas la lire et je ne la lirai pas. Demandez à Jean-Louis Trintignant.
Ouais. Ben je pense que, alors, je sais pas si Jean-Louis Trintignant l'a lu,
non.
Ou l'a dit.
Pas celle-ci. Non.
Mais, je peux pas imaginer mieux dit, la balade des pendus que par Jean-Louis Trintignant.
Alors, Jean-Louis Trintignant a dit, en revanche, le bateau ivre de Rimbaud. On écoute un tout petit extrait pour le plaisir.
Ouais, c'est du bon Flaubert.
Oui. Très bon Flaubert.
La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleur éternel de victimes. 10 nuits, sans regretter l'œil nié des falots. Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer.
Pas mal.
Bah ouais, c'est pénible. Rimbaud, c'est chaque fois qu'on lit, c'est autre chose.
Là, c'était Zola.
Oui. C'est que je fais exprès. Non, mais... Non, la voix de Trintignant, c'est extraordinaire.
Claude Ponty, vous n'avez pas donné de livre réel, mais je sais que vous êtes un grand lecteur. J'ai lu une interview où vous disiez qu'à 16-17 ans, le livre de poche est arrivé et tout votre argent, tout celui qui ne passait pas dans la peinture, passait dans les livres.
Oui, c'est vrai. Mais alors, il est arrivé pour moi. Je pense que j'ai dû lire les premiers numéros. C'était extraordinaire, c'était vraiment pas cher du tout. J'avais pas énormément d'argent de poche, mais c'était fou d'avoir. Et puis c'était extrêmement varié. Il y avait de tout dans et a priori quand même plutôt de la bonne littérature.
L'activité qui vous grise, là j'évoquais l'argent qui passait dans les livres et pas dans la peinture, c'est évidemment peindre et mettre les couleurs à l'aquarelle. Claude Ponty, je crois que vous travaillez aussi au crayon de couleur, à l'encre liquide et un peu de gouache parfois.
Alors, pratiquement pas d'encre liquide, presque toujours à l'aquarelle. Depuis quelque temps, oui, je fais des trucs au crayon de couleur. Ben, ne serait-ce que parce que pour faire des esquisses rapides ou des propositions, quand on me demande des choses, c'est tellement long de faire comme je le fais d'habitude que tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus vite au crayon de couleur. Sinon, les couleurs, c'est l'aquarelle. L'aquarelle, je mets je mets les couleurs dans mes livres. Il y a l'aquarelle. Ça a été très long pour moi parce que je sais pas faire l'aquarelle comme à l'anglaise, quoi. Comment on jette les couleurs? Moi, c'est les couleurs. Faut que je passe 15 fois pour avoir la couleur que je veux. Donc, il faut maîtriser le papier. Faut avoir trouvé le bon papier. Il faut avoir apprivoisé le pinceau. Parce que il fait pas ce qu'on veut tout de suite. Il faut savoir doser les couleurs et tout ça. Et il y a un moment où le papier a été nourri par l'eau et la couleur, parce que je suis passé plusieurs fois et plein de fois. Et le pinceau est parfait, le papier est parfait, et ma main est parfaite. Et là, c'est juste l'extase, quoi. C'est formidable. Je connais pas d'exaltation plus grande que le moment où tout le monde est OK pour la couleur, quoi, sur mon dessin.
Claude Ponty, vous savez que vous voulez peindre depuis l'âge de 7 ou 8 ans.
Oui.
Et alors, vous dites ailleurs que votre mère vous a offert des peintures pour que vous ne peigniez pas.
Ah, vous avez lu beaucoup de choses sur moi, oui. Bon, nous, les enfants, on était trois garçons, que mon frère l'aîné devait être architecte, moi je devais être prof de français, et mon frère cadet médecin. Alors lui, il préférait les animaux, donc ils ont transigé avec vétérinaire, ce qui a fini par faire ébénisterie aux Beaux-Arts et pendant un an, et ensuite saxophone de jazz pendant tout le reste de sa vie. Donc moi je peignais depuis toujours, c'est-à-dire que à 6 ans ma mère a essayé de me faire prendre des cours de peinture. Faut imaginer, hein. En plus j'y allais tout seul. Il faisait nuit, quoi. J'y suis allé qu'une fois parce que c'est très mal passé dehors et tout. Mais à 6 ans, on me fait prendre des cours de dessin parce que je dessine vachement bien. Donc ça me vient pas à l'idée que je suis fait pour autre chose. Ma mère montre mes dessins à tout le monde. Elle se vante de moi. Je sais pas comment on dit. Enfin, bref, quoi. Elle se sert de moi pour se vanter. Et puis, un jour, elle m'offre des peintures à l'huile. Je sais pas quel âge j'ai. 13, 14 ans. Donc moi, je me sens légitimé dans mon truc. Et puis non, après, assez rapidement, ça a été la guerre, quoi. Moi, je me suis fait contre mes parents pour ce que je voulais être. Et un jour, très longtemps après, elle était à la campagne et elle avait eu des chats, mais ils habitaient près d'une route, donc les chats étaient régulièrement écrasés, donc elle voulait bien avoir des chats, mais pas en avoir, ce qui commençait déjà à ressembler un peu à moi. Et puis, il y avait des chats qui venaient, et sur son petit balcon, elle les nourrissait. Alors je me suis dit, mais je comprends pas, parce que tu veux pas de chats. Et tu les nourris. Pourquoi tu les nourris? Elle me dit, mais je le nourris pour qu'ils partent. Et là, je me suis dit, ben voilà, je sais pourquoi elle m'a acheté des peintures, c'est pour que je peigne pas. Voilà. Non, mais faut pas prendre l'air triste comme ça. C'est super drôle.
Non, c'est très drôle et
tragique. C'est trop marrant, c'est-à-dire d'être dans des contradictions pareilles.
Oui, c'est
avec
l'absurde.
Une sûreté de soi, de sa pensée. C'est extraordinaire. C'est super drôle. Si j'étais doué, j'en ferais une pièce de théâtre de ma mère. Mais...
Peut-être que vous pouvez.
Oh non, la pauvre. Elle est encore là, je ne veux pas être trop...
Oui, et puis assez parler des parents, parfois.
oui. En plus, je suis un parent, moi, depuis un bout de temps.
Mais il paraît que vous êtes un bon père.
Ah, ça, je ne suis pas sûr que ma fille dirait ça.
Mais c'est normal, c'est le rôle des filles.
C'est très compliqué d'être père, d'être parent, et d'essayer de pas trop mal faire. Mais...
Claude Ponty, j'ai quand même l'impression que ça va mieux, parce qu'il paraît que vos premières peintures étaient très très violentes. Ça exprimait vraiment un mal-être avec des gens écartelés, des ventres ouverts.
Oui, bon, bah c'est depuis que je parle du viol, enfin de mon grand-père, il y a des choses que j'explicite un peu plus. C'est vrai que la période où vers 11-12 ans, où c'était des dessins à l'encre de Chine et au pinceau sur des grandes feuilles de papier, c'était assez, avec le recul, c'est hyper comique quand même, de voir ma mère montrer mes dessins à d'autres gens, en disant, tout le monde s'extasiait, c'était formidable, c'est des dessins atroces. Je dessinais des gens ouverts avec les tripes à l'air, enfin quelqu'un qui regardait ses propres organes à l'extérieur et tout. Et même après, quand j'étais beaucoup plus grand, je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit encore à personne parce que je les ai cachés depuis longtemps. Je peignais des choses violemment sexuelles, hein, des visages violés. Appelons ça, tu sais. Et j'en ai donné à ma mère qui l'a mis dans sa chambre, ou dans la chambre à côté, je sais plus, je l'ai montré, elle était toute contente. Et alors là, c'était vraiment, j'étais dans des abysses d'incompréhension. Quoi. Je me disais, comment on fait pour rien voir?
L'être humain est très fort pour ne rien voir.
Ouais, ils sont très forts, oui.
Je vais devoir mettre un CD de la programmation musicale à cet endroit.
C'est pas grave.
Évidemment, puis ça arrive au meilleur des moments.
Oui. Voilà.
Donc là, on écoute dans une logique totale Angèle et Roméo Elvis, tout oublié. Dans la playlist de France Inter, j'ai un rire nerveux.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois, je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Claude Ponty, dont voici l'idée pansement. Oui, c'est bien l'idée pansement qu'on va entendre. Une idée musicale, Claude Ponty, qu'on entend, c'est du guqin, je ne sais pas si je le prononce bien, un instrument traditionnel chinois apparu vers le 10e siècle avant Jésus-Christ. C'est une sorte de sitar sur table à 7 cordes.
Oui.
Comment vous avez découvert cet instrument ?
J'ai pas eu de vraie éducation musicale enfant, et donc j'ai eu cette chance d'être découvreur. Sans préjugés, sont donc assez vers ça m'est arrivé vers 20 ans, j'ai commencé à écouter des choses et ici il y avait la mode de la musique indienne du sitar. Le sitar, c'est un instrument aussi extraordinaire que le piano, c'est un instrument symphonique, on peut dérouler le monde avec un sitar. Donc j'ai été assez curieux de ces choses-là et m'intéresser aux musiques classiques traditionnel parce que c'était un peu énervant. C'est quand même ça, c'est dans les années 70 et quelques, donc il n'y a qu'une musique, c'est la musique classique européenne, tout le reste c'est caca, crotte et bidule. Donc moi, comme j'étais néophyte partout, je trouvais mon bonheur partout. Donc ce morceau de musique-là, j'ai dû l'écouter à peu près 2000 fois, et chaque fois c'est pas le même. C'est incroyable.
Claude Ponty, vous venez dire les mots caca-crotte, et je suis obligée de rebondir dessus parce que j'avais pas de transition pour le remède d'après.
Oui.
C'est votre citation pansement qu'on attribue en France à Coluche, mais qui se trouvait déjà sur le papier à lettres de l'écrivain Henry Miller en anglais. Vous la connaissez, c'est quand la merde, je vous laisse la dire.
Ah, quand la merde vaudra l'or, les pauvres naîtront sans trou du cul.
Voilà.
Oui, c'est absolument magnifique. C'est le sommet de la philosophie, analytique.
Là, on arrive dans la partie de l'émission où tout est en désordre. Il n'y a pas de lien entre les remèdes. Vous vouliez nous dire un petit mot sur l'humoriste suisse. Elle est plus qu'humoriste, elle est comédienne, qui est Zouk et qui s'est inspirée d'un séjour de 18 mois dans un hôpital psychiatrique dans les années 60 pour faire son spectacle Album. Et vous aimez, vous, le sketch de la fourmi?
Ah oui, alors Zouk, c'est une personne extraordinaire, c'est une comédienne extraordinaire. Et elle a... Moi, je fais des livres, je fais des dessins. Il y a des choses que je ne peux pas, je n'ose pas faire. Et Zouk, c'était quelqu'un qui avait rien ne l'empêchait de dire, d'exprimer ce qu'elle avait exprimé. Et mon sketch préféré, c'est alors en plus en tant que fils d'instit, on appréciera tout le sel de la chose, d'autant que j'ai appris à lire dans la classe de ma mère et ça n'a pas été la meilleure année de ma vie. Mais c'est donc le sketch, c'est très simple, hein. C'est Zouk, elle est là, elle regarde, elle se penche et dit « Oh, une petite fourmi, comme elle est mignonne. Et où tu vas, petite fourmi ? À l'école ?» Et elle l'écrase. Ah, ça, c'est presque le petit ding-ding de Festen. Oui, c'est trop. J'espère que c'est pas trop de bousiller le.
Pas du tout.
Les micros.
On écoute un morceau bonus.
Salut à vous, bravo soldat du 17e. Salut, bravo Piu-Piu. À quoi vous admirez-vous? Salut, salut à vous, à votre veste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Claude Ponty. Il y a plein de remèdes qu'on va pas avoir le temps d'aborder, mais on les mettra tous sur le site de l'émission. Oui. En revanche, là, on entend Gloire au 17e, une chanson anti-militariste composée en 1907 à l'occasion de la révolte des vignerons du Languedoc.
Bah oui, bah c'est, alors, je dirais pas exactement que c'est anti-militariste. Je dirais que c'est ce moment qui arrive de temps en temps, où des soldats, parce que c'est des soldats qu'on a, l'armée qu'on envoyait.
Du 17e régiment d'infanterie à Béziers.
Eh ben, ils refusent de tirer sur les gens qui sont les mêmes qu'eux.
C'est la manifestation des vignerons. Voilà, et ils refusent de tirer
sur eux. Voilà, ils mettent l'arme au pied. Et c'est quand même ce qui a fait que après, on met plus les gendarmes dans leur propre pays, hein. On met plus les escadrons de machins et trucs, parce qu'on veut pas qu'ils fraternisent, parce que leur truc, c'est d'être insensible à l'autre. Aujourd'hui, on peut voir des gens qui disent, bon, ils sont un peu habillés en jaune, ils disent aux autres, suicidez-vous. Et les autres en face, ils leur balancent des grenades, des machins dans les yeux pour qui les éborgnent. Ils sont tous les deux du même bord. Ils souffrent tous les deux d'être mal payés, mal considérés. Ils souffrent tous et ils sont embarqués dans ce truc où ils s'affrontent alors qu'ils écoutent cette chanson.
Qu'ils écoutent cette chanson, qu'ils se fassent des câlins.
Qu'ils se fassent des câlins.
Et qu'ils soient augmentés aussi.
Et qu'ils soient augmentés et qu'on leur paye leurs primes et leurs machins, tous les trucs qu'ils n'ont pas. Et voilà.
Merci beaucoup, Claude Ponty, d'être venu dans cette émission.
Merci.
Vos albums publiés à l'École des loisirs, à l'exception des 5 premiers, se trouvent dans toutes les bonnes librairies et bibliothèques. Les derniers parus sont Le Fleuve et Enfance avec Marie Desplechin. Signalons aussi qu'on peut vous écouter sur le site de France Inter, lire le conte pour enfants que vous avez écrit pour le podcast Oli. C'est Ozali et Blue. Et vraiment, je me suis régalée. Aussi, le site internet Le Muse, le musée virtuel en ligne d'œuvres réalisées par des enfants du monde entier. Allez voir, absolument. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que votre humeur a le croustillant d'un chapeau digital. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.